Bonsoir à toutes et tous. Soyez les bienvenus sur votre libre antenne, un espace de parole et d'échange pour vous soutenir dans vos questionnements et ainsi ouvrir le champ des possibles. L'avenir n'est jamais que le présent à remettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre, écrivait Saint-Exupéry. Et c'est très modestement ce que tente chaque soir cette libre antenne, vous aider à vous reconnaître votre légitimité, à penser vos blessures, et vous accompagner dans l'expression de votre désir de vivre en confiance. Alors osez la liberté de vos mots, essayons ensemble d'en dénouer les pelotes et peut-être mettre un peu d'ordre dans vos pensées et vos émotions bousculées. Au 39-21, Fanny et Bastien vous attendent avec attention et délicatesse au standard de cette libre antenne. Mais si vous préférez vous manifester par SMS auprès de ceux qui échangent avec moi, alors c'est au 7-39-21, suivi du mot « nuit » en lettres majuscules et de votre message. Je salue derrière la vitre Frédéric Dervin qui réalise cette émission. Pardon. Soyez les bienvenus, la libre antenne, c'est maintenant 39-21.
Venez vous confier à Catherine Blanc sur Europe 1.
Et nous recevons ce soir Nadia. Bonsoir Nadia.
Bonsoir Catherine. Je suis très 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 émue de passer à l'antenne.
Bon, mais écoutez, je vais vous aider. C'est bien les émotions, vous savez.
S'il vous plaît, aidez-moi.
Ne vous inquiétez pas, nos émotions nous bousculent un peu. Elles nous font parfois même chuter, hésiter, faire du gloubi-boulga parfois de nos mots. Je l'ai fait moi-même tout à l'heure. Donc, vous voyez, il n'y a pas mort d'homme. Tout va bien, nous sommes toutes les deux et nous allons pouvoir échanger sur ce qui vous préoccupe.
Merci infiniment. Je ne sais pas par quoi commencer exactement parce que je suis une dame d'un certain âge.
Oui.
On va avoir la coquetterie de dire un peu plus de 70 ans.
Voilà, alors un peu plus de 70 ans, très bien.
Et j'ai été l'objet, j'ai honte, d'une escroquerie par Internet.
Oui.
Et je depuis un mois, je fais que me démener dans tous les sens pour... essayer de résoudre mon problème.
Alors, le problème de cette arnaque ou,
voilà.
Ou le problème de la honte?
Oui, le problème de cette arnaque, oui.
D'accord. Alors, d'abord, puisque vous... Il y a deux choses que vous dites. Il y a d'abord un fait, effectivement, extrêmement blessant, c'est de s'être fait arnaquer et de,
oui.
et de beaucoup. De quoi vous êtes-vous fait arnaquer?
De 3800 euros.
D'accord, donc c'est une coquette somme.
Oui.
Et donc cela a généré non seulement la perte et la brusquerie d'avoir été arnaqué, mais aussi la notion de honte. Alors on va commencer d'abord peut-être sur l'arnaque et puis après on reviendra sur cette notion de honte qui me paraît être une notion importante.
Donc, oui, tout à fait. Vous avez tout à fait cerné le problème.
Bon, alors commençons par l'arnaque. Comment vous êtes-vous fait avoir?
Écoutez, avec le Covid...
Oui.
Et puis la solitude de ne pas pouvoir voir mes petits-enfants, plein de, comme beaucoup de gens, on est un petit peu, depuis quelques mois, et dirais-je plus, tout seul, à faire avec soi-même, on essaye de passer le temps, d'essayer de s'occuper, et puis il y a quelques mois, après Noël, j'ai décidé de mettre un petit peu, je me dis pour ne pas sombrer dans la tristitude, je dis je mettais un peu de paillettes dans ma vie, j'habite une maison dans laquelle je n'ai pas eu les moyens de faire des travaux comme je voulais, etc., que je laissais en plan depuis de nombreuses années et tout. J'ai décidé d'essayer de faire un petit peu d'amélioration.
D'accord.
Et à commencer par j'ai un muret dans le jardin long de 15 mètres qui me sépare de mon voisin, qui est complètement fissuré, dont le ravalement est fissuré. Et vraiment, c'est des scellés, quoi. Et cela, depuis de nombreuses années, et à cause, tout le monde se renvoie la balle, le voisin, parce que c'était celui qui m'avait mis le ravalement. Et moi, mon entreprise qui avait mis le ravalement, c'était à cause du mur du voisin qui a été fait, c'est vrai, vous savez, il n'a pas été fait légalement, vous voyez ce que je veux dire, donc il est de Trabiol, et qui cause les fissures.
Sur le vôtre ?
Sur le mien.
D'accord.
Donc, on s'est fâché sans résoudre le problème. Hein.
D'accord.
Et les fissures sont là depuis 20 ans. Moi, je n'ai pas eu le temps ni les moyens
de vous en occuper, de rétablir cela. D'accord.
Voilà. Et donc là, je décide de m'y mettre et je convoque plusieurs entreprises du BTP pour me donner des devis. Et dans la foulée, bon, alors je voulais faire des devis pour le Ravalon. Et puis devant chez moi, devant mon portail aussi, tous les ans, au moment de, vous savez, de l'hiver, qu'il pleut, qu'il y a de la gadoue. Et que je passe devant mon portail, je marche dans la gadoue avec ma voiture, etc. C'est affreux, quoi. Je veux dire, il faudrait une dalle carrossable, vous voyez ce que je veux dire,
avec des pavés ou du coup de plomb, etc. Oui.
Vous voyez ce que je veux dire.
Tout à fait, Nadia.
Donc, je fais venir plusieurs entreprises, je prends les notes, etc. Et je ne dis oui à personne. Hein. Je tiens vraiment en tête, je compare, etc., en fonction des prix, des délais, etc., etc. Et puis, brusquement, un jour, viennent deux entrepreneurs. Il y en a un qui me dit, « Moi, madame, je refuse de faire votre mur parce que les fissures reviendront quoi qu'il arrive, parce que c'est à cause du
mur du voisin. »
Voilà, le mur du voisin. Donc, il a été honnête, il m'a dit, ça va vous coûter une fortune, et puis ça va refriturer. Donc, moi, je refuse d'assurer un tel travail.
D'accord.
Un deuxième me dit la même chose, mais me propose une solution qui consistait à mettre une clôture devant chez moi.
Entre les deux murs. Ou pour cacher devant le mur. Devant le mur pour le cacher.
Voilà, chez moi, devant le mur pour le cacher.
Mm-hmm.
Une jolie clôture, trouver une jolie clôture qui aille dans le ton de la maison, etc. etc. Et au lieu de me trouver une clôture, il me propose des horreurs, quoi, je pense qu'il m'a... Hein, il me dit, bah, écoutez, ma petite dame, vous n'avez qu'à chercher vous-même.
D'accord, et c'est là que vous vous mettez sur Internet.
Voilà, je me mets sur Internet et je me mets à la recherche d'entreprises qui vendent des clôtures dans le ton, etc. Enfin, quelque chose qui aille avec ma maison.
Mm-hmm.
Et j'en trouve une. Et je commence à discuter avec elle. Ensuite,
Par écrit ou verbalement ?
Verbalement.
Verbalement, d'accord. Donc vous appelez.
Tout verbalement. Je suis tombée sur une dame tout à fait charmante, etc. etc., etc. Et puis j'en parle. Et puis je lui dis que l'ennui. Alors elle me poussait à acheter très très vite parce que. C'était aux alentours du 23-24 juillet. Vous voyez ce que je veux dire juin, pardon.
D'accord, donc avant les vacances, il fallait se dépêcher avant les vacances.
Oui, avant le 1er juillet, elle me poussait parce qu'il y avait soi-disant une promotion de 20% que j'allais perdre à partir du 1er juillet si je ne passais pas commande.
Rapidement.
Illico presto.
Mm-hmm.
Alors 20%, ce que j'avais calculé, c'était toujours 700 ou 800 euros d'économie.
Ce qui n'est pas négligeable, donc je comprends.
Voilà. J'ai cru, dans mon esprit, c'était là, j'avais calculé ainsi. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je veux bien, seulement moi, ce qui m'ennuie, c'est que vous savez, une clôture sur 15 mètres. Moi, je suis une petite dame d'un certain âge, qui quand vous allez livrer tout le matériel sur des palettes que vous allez mettre dans mon jardin, qui c'est qui va... comme réceptionner la marchandise et constater qu'elle est en bon état, etc., etc. Moi, dans ces conditions-là, moi, c'est difficile. Oh, mais écoutez, Moi, nous connaissons un. Ils sont dans la région Bretagne, hein, l'entreprise en question. Et nous connaissons un entrepreneur de maçonnerie, etc., à qui nous travaillons en région parisienne. On veut bien vous mettre en relation avec lui. Il sera là pour la réception et la pause. Il vous fera un devis, etc. Tout allait bien dans le meilleur du monde. Très bien, c'est parfait. Je me dis, je suis tombée sur quelqu'un de charmant et serviable. Et elle fait donc venir le monsieur qui vient aussitôt illico presto chez moi, voir comment il pouvait installer la clôture, etc., comme ci, comme ça. Et dans la foulée, on discute aimablement, et comme il était dans tout corps d'état, comme on dit dans le bâtiment, je lui parle de ma dalle aussi, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, pour que ça, vous ne soyez plus dans la gadoue.
Voilà, pour que je ne sois plus dans la gadoue. Et je lui dis, écoutez, vous me ferez un devis pour deux devis séparés, un pour la clôture et un pour les dalles. Et ça fait, pendant 3 jours, il ne me lâche pas. Il planifie tout, etc., etc.
Il vous donne les devis.
Il m'envoie les devis le 29. Hein. Je les ai obtenus le 29. Mais moi, le 29 au soir, j'ai tout eu. Donc le devis et la dame le 29 au soir, donc le vendredi soir, c'était un vendredi soir, la dame qui m'appelle, qui me dit donc voilà, maintenant il faut vous décider à passer commande. Parce que, après, moi, je ne peux plus vous garantir les 20%. Hein. Et à force d'insistance, d'amabilité, etc., je craque et je passe commande. Et à la suite de ça, elle me dit, envoyez-moi 3 chèques. Par Internet, par photo.
D'accord.
Par email, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui,
trois chèques.
Par email, d'accord.
Faites 3 chèques dont vous ferez les photos que vous m'enverrez sur email. Hein,
d'accord.
Par email.
Ok.
Je fais les 3 chèques et puis je lui envoie les photos. Elle me remercie par email, etc. Et elle me dit, demain, vous les mettez bien à la poste, dès demain. Au courrier et là-dessus j'ai son artisan qui m'appelle en me disant il faut absolument qu'on signe les devis. Et je dis écoutez monsieur Intel, Je dis pour l'instant, je dis déjà, je n'ai même pas reçu votre assurance, comment on appelle ça, une assurance décennale, parce que ça, je sais qu'il faut des choses comme ça pour faire des travaux. Et en plus, il était tard, etc. Oui, mais je vous l'envoie, puis me l'envoie. Puis je me rends compte qu'elle n'était pas à jour. Je lui dis qu'elle n'était pas à jour. Et il me dit, mais c'est vous qui vous m'aiderez à la payer parce que en ce moment j'ai des difficultés, etc. Écoutez, madame, monsieur, les assurances, c'est à vous de les payer. C'est pas à moi de vous aider à payer les.
Bien sûr,
vos assurances. Et puis là, tu l'insistes à nouveau. Excusez-moi, tout est dans mon. Je ne sais plus si je dis les choses comme il faut. Mais
ne vous inquiétez pas, je vous suis. Donc, on voit petit à petit que.
Pardon, je suis tellement. J'ai fait tellement de démarches depuis 4 semaines et que je me démène dans tous les sens que je ne sais plus par minute à peu près. Enfin, tout ce que je sais, c'est qu'il finit par me dire. Moi, dimanche matin, je viens pour je viens pour signer les devis dimanche matin. Alors, vous vous rendez compte, venir chez moi, déjà m'a harcelé jusqu'à 11h du soir pour tout, et venir un dimanche matin...
Pour faire signer les devis.
Pour faire signer les devis. Mmh. Alors là, d'un seul coup, je me suis réveillée.
Oui.
Je me dis, là, je suis tombée sur de Lascar, là. J'appelle la secrétaire et je lui dis, écoutez, madame, votre artisan m'a appelé à maintes reprises le soir, il va tout pré-signer dimanche, ses papiers sont pas... surtout
jour.
Que rien ne pressait, quoi, en plus, rien ne pressait.
Bien sûr.
Et je dis, moi, dans ces conditions, moi, je n'ayant plus personne pour réceptionner la marchandise, pour qu'on va recompter dessus, etc., moi, je vais annuler la commande, hein.
D'accord.
Je vais annuler la commande de la clôture. Et là-dessus, elle me dit, il n'en est pas question. Vous avez, je ne vous ai pas forcé à
commander.
À commander. Vous avez fait toute votre tête. Vous aviez toute votre tête quand vous avez envoyé les chèques. Je suis désolée, il faut que j'en parle à mon directeur, de toute façon. Il faut que j'en parle à mon directeur. Et puis, de toute façon, elle s'est mise à trembler. Elle me dit, écoute, de toute façon, pour l'instant, je ne peux rien dire. J'ai peur de me faire attraper parce que de perdre la commande, parce que je n'aurais à vouloir faire à rendre service, à vous trouver quelqu'un. J'ai peur que ça me revienne dessus. Alors, je dis, écoutez, moi, je ne vais pas en parler à votre directeur. Hein. Tout ce que je veux, c'est l'annulation, etc. Et puis, quand j'ai rappelé la main, on m'a dit, de toute façon, ça n'a plus d'importance. J'en ai parlé à mon directeur. Il a dit, ça n'a pas d'importance. Il n'est pas question d'annuler.
D'accord.
Alors, le lundi matin, moi, j'étais au 400, comment on dit, au centre Jitsu. Lundi, j'appelle... Non, pas du tout. L'UFC que choisir d'abord. Vous savez, c'est une société de consommation, là, qui me conseille d'envoyer une lettre commandée avec accusé de réception pour, l'annulation de la commande. Parce que quand on achète des choses par Internet, on a 14 jours de rétractation.
Absolument.
Vous êtes au courant, non?
Oui.
Alors donc,
je croyais que c'était 7, mais vous me dites 14. Mais je pensais que c'était de toute façon, il y avait un délai
c'est
de rétractation.
14 jours.
D'accord, très
14
bien.
Jours, 14 jours de rétractation, durant lesquels il devait me renvoyer les chèques sous 8 jours. Donc j'envoie ma lettre recommandée, puis j'attends. Et la lettre a mis du temps à arriver. Mais elle est arrivée, je l'ai envoyée le 5, elle est arrivée le 12, mais on a attendu donc un peu, et la semaine dernière, et toujours rien, pas de nouvelles, mais en plus, le chèque du 1er juillet a été encaissé.
D'accord.
Ils ont encaissé. Alors là-dessus, je me précipite à ma banque, je leur demande s'il était possible de faire opposition au chèque. Et elle m'a dit, il faut que vous alliez au commissariat pour d'abord déposer une plainte. Si au commissariat, après votre plainte, à ce moment-là, on fera opposition. Et quand je suis allée à mon commissariat, on m'a dit non. On m'a dit, madame, c'est pas du pénal, c'est du commercial. Je vous passe les détails, je suis restée une heure, j'ai beau discuter, il n'y a rien eu à faire. Ils m'ont fait comprendre que c'était de ma faute, etc. Donc je suis revenue à la banque, et à la banque, on m'a dit, on ne peut rien faire. Si le commissariat n'a pas voulu vous faire prendre la plainte, nous, on ne peut pas faire d'opposition. Et donc après, je vous passe les détails, j'ai essayé de me retourner partout, puis j'ai obtenu une information par le tribunal de mon département, comme quoi j'avais droit d'aller et puis et d'un autre commissariat par le 17 que je pouvais aller dans un autre commissariat n'importe lequel pourvu que je puisse déposer ma plainte. Mmh. Et j'ai réussi à trouver un commissariat où je suis restée 10 heures. Je ne sais pas si vous imaginez des heures.
Si, je vois bien.
J'étais épuisée et je suis restée 10 heures pour obtenir ma... Où ils ont été adorables, ils ont accepté de me faire comment on appelle ça, le compte rendu de mon dépôt de plainte.
Oui.
Et contente de tout ça, le lendemain, j'arrive à la banque avec le dépôt de plainte. Et là-dessus... je vais à la banque avec. Elle me dit, qu'il fallait que j'attende un peu, qu'elle allait le voir. Elle était sur le point de que ça se passe bien, puis d'un seul coup, la conseillère est partie. Elle voulait voir sa directrice d'agence. Mmh. Et la directrice d'agence est venue en me disant, je suis désolée, madame. Nous ne pouvons pas légalement faire opposition au chèque malgré votre plainte parce que elle me remet ça elle aussi après m'avoir demandé une dépôt de plainte. Une fois que j'ai ramené une dépôt de plainte, elle me redit que c'était du commercial.
D'accord.
Elle refuse donc de faire opposition au chèque.
Donc aujourd'hui, Nadia, aujourd'hui, vous en êtes où? Est-ce que oui ou non, il y a quelque chose qui fait que vous êtes défendue ou pas?
Alors j'ai essayé de me défendre auprès d'une, comment on appelle ça là, mon assureuse juridique, qui elle aussi s'est défilée parce que soi-disant que mon assurance... J'ai deux affaires dans l'affaire, mais je ne vous parlerai pas de mon assurance.
Non, parce qu'après je voudrais en venir à ce qui vous concerne plus personnellement, à savoir cette notion de honte, parce que c'est quelque chose qui est intéressant puisque...
Non, ce que je voudrais... qui m'intéresserait, s'il vous plaît, c'est savoir est-ce que on a une chance dans ces histoires de je voudrais c'est qu'il y ait quelqu'un juridiquement, pas des témoignages de gens qui se sont fait avoir, ça j'ai une amie avec qui j'en parle là. Savoir il y a réellement 14 jours de délai de rétractation, comment on peut faire appliquer la loi?
Alors ça, vous l'avez dit, si des SMS arrivent, je vous les transmettrai tout de suite. S'ils arrivent
mais des
après
personnes notre... vraiment compétentes
bien
qui
sûr.
Peuvent m'aider.
Bien sûr, non, mais j'ai bien compris, Nadia.
Vous comprenez?
Oui, oui.
Excusez-moi, parce que c'est dans sur ce plan-là que je suis... parce que j'ai fait venir le médecin il y a 3 jours, j'ai eu un malaise. Il voulait me faire hospitaliser parce que tellement j'étais épuisée, à bout, etc. J'ai besoin de souffler et d'être aidée. Je suis désolée, j'ai un peu honte de demander.
Alors justement, je voudrais revenir à cette même notion de honte. Alors j'ai bien entendu quelle était votre demande, qui est une demande d'aide professionnelle. Donc si des professionnels qui nous entendent du point de vue juridique en matière à nous donner des informations, je vous les transmettrai. Mais là, moi, comme ce n'est pas mon terrain, comme vous le savez très bien, ce que je voudrais voir avec vous, c'est cette notion de honte qui arrive jusqu'à vous autodétruire d'une certaine manière puisque vous finissez par tomber malade. Donc, et même la honte que vous réexprimez quand vous demandez justement de l'aide. Donc demander voilà. De l'aide, vous avez honte. Vous êtes fait arnaquer, vous avez honte.
Voilà.
Et évidemment que l'enchaînement de ce qui vous a été dit tant par le premier commissariat que par votre banque, la directrice de votre agence, qui vous dit finalement vous renvoie à votre responsabilité, réanime votre honte. Et ça, c'est intéressant parce que, vous savez, Nadia, à chaque fois que les gens sont victimes, c'est ce qui revient, c'est la notion de honte. C'est-à-dire, on est agressé physiquement, financièrement, et le premier élan n'est pas de crier au secours ou de crier à l'aide, c'est de se taire et de rester dans son coin ou de souffrir la responsabilité qu'on s'impute. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, enfin, intéressant et effrayant. C'est-à-dire que c'est celui qui est agressé qui se retrouve, qui se juge lui-même coupable, parce que si vous n'étiez pas, si vous ne vous sentiez pas coupable, vous ne vous sentiriez pas honteuse. C'est parce que vous avez le sentiment et qu'on vous a convaincu, y compris la police dans ce cas-là, y compris votre banque, on vous a convaincu de votre responsabilité pleine et entière et en conscience, y compris d'ailleurs cette dame au téléphone qui va vous dire que vous aviez toute votre tête quand vous avez fait votre commande. Donc, au prétexte de tout cela, vous devenez l'unique responsable et du coup, vous vous retrouvez face à un sentiment de honte très fort qui fait que comme vous n'arrivez plus à appeler au secours, le seul secours que vous pouvez avoir, c'est celui de la part de la médecine en étant malade, en ayant tout d'un coup un moment de fragilité et un besoin de secours physique. Parce que vous n'arrivez pas à avoir le secours sur le sujet qui vous concerne de cette arnaque, alors qu'en effet, la loi vous protège et qu'on ne peut pas comme ça décider sous prétexte d'ailleurs que vous n'ayez pas été attentive, que vous n'ayez pas vu venir l'envie de vous faire signer de façon un peu pressante, vous avez le droit de ne pas avoir vu, mais en l'occurrence, la loi malgré tout vous protège. Sinon, il ne pourrait plus y avoir
ça
de comment.
J'aimerais que vous être sûr. Que vraiment la loi nous protège, s'il vous plaît. Parce que j'ai fait ce qu'il fallait à la DGSF. Je viens d'écrire, d'envoyer un mail à la répression des fraudes. J'ai fait la mise en demeure. Tout ça ces derniers temps-là, en disant. Donc, et j'ai même appelé une avocate en désespoir de cause parce que je ne voulais pas prendre d'avocate. On m'avait dit pour moins de 4000 euros, ce n'est pas la peine de prendre un avocat parce que ça coûte trop aussi cher que la somme qui est due. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui. Bien sûr.
Et en désespoir du coup, j'ai quand même appelé ce soir une avocate à côté de chez moi qui a eu la gentillesse de me dire qu'elle allait peut-être s'occuper de mon cas. Donc, je lui ai envoyé quelques photocopies et elle part en vacances et elle me reverra en septembre. Mais ce que je veux, je ne sais pas si elle pourra m'aider. Ce que je voudrais, c'est vraiment savoir s'il y a une vraie loi pour aider des gens comme ça, pour m'aider, avoir quelqu'un de... Vous savez pourquoi je réagis comme une petite fille, vous savez,
ça que je vois bien, c'est-à-dire, et ça c'est principalement le sujet, c'est-à-dire que vous vous êtes sentie tout d'un coup impuissante à vous protéger et coupable d'avoir été dans la cour des grands et embarquée par les grands en quelque sorte, qui sont les loups en quelque sorte de l'histoire. Et vous avez de fait... par voie de conséquence, une attitude de panique comme une petite fille, mais qui se sent qui se sent coupable. Même dans les cas, par exemple, qui n'ont rien à voir avec ça, mais des enfants qui sont maltraités ou sexuellement, par exemple, à toucher se sentent honteux.
Je comprends parfaitement, je sais. Mais vous savez, ça remonte. J'ai fait un tel travail psychanalytique sur moi suite à pas mal de drames dans ma vie. Vous savez, ma mère s'est suicidée quand j'avais 24 ans. Elle m'a laissée seule avec 5 enfants à charge, c'est vous dire. Et vous vous rendez compte qu'à l'époque, j'ai eu le courage, à 24 ans, de saisir un juge pour enfants, de prendre un avocat, toute seule, et de demander la garde de mes frères et sœurs, c'est vous dire. Le courage que je n'ai plus. Vous voyez, comment on peut avoir une force extraordinaire à 24 ans et qu'on perd à 70 ans ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Eh bien, parce que quand on a 24 ans, on a cette merveilleuse arrogance de penser qu'on est fort et tout-puissant, qu'on peut jouer les super-héros pour protéger une famille qui n'en a pas la capacité. Alors que quand on mûrit ou vieillit, on réalise aussi que c'est un imbroglio. On est plus en conscience qu'il y a des détours dans tous les sens, qu'on ne peut pas tout maîtriser.
Non, mais je sens bien que je suis fragilisée et à tout point de vue,
bien
santé.
Bien sûr, voilà. Vous vous sentez, et en vous sentant plus vieille, plus fragile, bien tout d'un coup, vous vous sentez toute seule. D'ailleurs, vous avez une maison dont vous n'avez pas pu vous occuper, vous voulez vous en occuper. Vous étiez dans un temps aussi, on sort d'un contexte de Covid un peu compliqué, donc de solitude, de conflit avec le voisinage, de distance avec vos enfants peut-être. Et tout ça a fait que vous vous êtes sentie complètement avec une envie d'oser un peu de confort. Et peut-être que déjà, le confort, c'est une histoire de culpabilité, parce qu'on ne doit pas, c'est presque un peu trop... un peu trop bourgeois, un peu trop, donc vous osez pas de vous faire plaisir, dépenser des sous pour améliorer les choses.
Et tout d'un coup, je vous promets, j'ai fait un emprunt pour pouvoir faire ça. Je voyais plein de gens autour de moi en train de repeindre leur maison, refaire les. Vous savez, ça a donné des idées, le confinement, à certaines personnes, de refaire leur jardin. Enfin, je voyais ça à la télévision aussi, tout ça. C'était une façon, vous savez, les gens, on ne sait pas hein, ce qui nous. J'aurais jamais fait ça avant, mais est-ce que c'est le confinement qui a joué? Je ne sais pas.
En tout cas, il y a tout ce cumul. On ne va pas savoir évidemment exactement, mais il y a tout ce cumul de votre âge, de votre isolement, de l'isolement causé par le confinement, de la peur peut-être qu'a généré le Covid, et puis tout d'un coup une envie de voir un peu plus confortablement et qui se retrouve l'objet d'une arnaque. Alors il y a Marie qui a envoyé un SMS et qui vous demande si vous avez recontacté la société des consommateurs, parce que ce serait important notamment d'avoir l'article de loi précis pour que vous puissiez vous appuyer dessus, plutôt que d'être simplement dans des paroles, parce que là encore, vous avez fait, merci Marie d'ailleurs, vous avez fait cet achat par téléphone, vous appuyant sur des paroles de quelqu'un qui demande votre confiance, mais à la fois, eh bien, c'est là aussi, quand vous téléphonez à la société de consommateurs, eh bien, on vous parle, mais il vous faut avoir des papiers, des lois, des numéros de loi pour que vous puissiez les lire réellement ou les confronter, que ce soit quand c'était auprès de votre banque ou que ce soit auprès, même si les avocats chercheront, puisque vous avez pris une avocate, chercheront tout cela, mais c'est important pour vous, pour que vous vous remettiez. J'allais dire droite dans vos bottes. Vous avez fait confiance et je vous dirais, vous n'avez pas lieu d'avoir honte parce qu'il est heureux que vous ayez la compétence à faire confiance. Parce que si on ne se fait plus confiance, on ne voit pas très bien où va notre société.
C'est ça qui est terrible, c'est que j'ai toujours cette envie d'aimer les gens et d'avoir confiance, et même quand on est trahi, de recommencer. Vous voyez ce que je veux dire, c'est de. Et toujours, quoi. C'est ça qui est terrible. Mais vous savez, la société de consommation, la dame est partie en vacances. Donc,
alors, justement, Marie vous renvoie un autre SMS en vous disant que vous ne devez pas attendre le mois de septembre, ce sera trop tard. Elle demande aussi si vous avez regardé du côté du Code du commerce et peut-être que vous pouvez également solliciter un rendez-vous avec un juriste de la maison de justice et du droit de votre ville. Ou de la ville, ou de la ville d'à côté.
Je l'ai fait, ils m'ont envoyé, j'ai tout fait. Ils m'ont envoyé ils m'ont dit de trouver un avocat.
D'accord.
Ils m'envoient tout, j'ai tout fait là, j'ai tout fait, tous les tribunaux, et ils m'ont dit il faut un avocat. Et le problème, c'est que quand on appelle les avocats, ils vous disent que c'est la. Comment on appelle ça? C'est les périodes juridiques. Voilà. En ce moment, tous les avocats partent en vacances.
Alors,
alors la seule que j'ai trouvée, c'est une qui. C'est pareil, elle m'a dit en septembre. Tout de suite, je ne sais pas quoi. C'est une personne. Vous savez, il y a des avocats en ligne, là, sur des lignes, qui prennent des fortunes. Mmh. qui a un bureau sur les Champs-Élysées. Moi, je n'ai pas les moyens de payer cette dame. Je ne sais plus où trouver un avocat. Je ne sais pas où trouver quelqu'un. Et c'est pour ça que je croyais que en ayant cette avocate cet après-midi, j'étais toute contente. Parce qu'elle a accepté mon dossier et qu'elle m'a dit on verra ça en septembre.
Alors Nadia, on poursuit toutes les deux sur le sujet sur lequel moi je peux vous aider. Et puis je laisse toujours les auditeurs éventuellement envoyer des SMS pour vous guider pour justement tout cela. Alors reprenons notre histoire de honte et notre histoire de ce que vous disiez de petite fille, d'avoir perdu l'assurance qui était vôtre, que vous connaissiez, et ce sentiment d'être tout d'un coup dépossédé de votre pouvoir de décision, de votre pouvoir de rétractation, qui est le pouvoir de l'adulte en quelque sorte, et vous êtes à la merci de personnes qui se jouent de vous et profitent de vous. Donc vous voyez, on est dans une situation, comme tant d'autres malheureusement, pas toujours financière, et avec systématiquement ce point commun qui est le sentiment de honte. Alors, et qui fait que vous n'appelez pas. Alors, c'est intéressant. Est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Est-ce que vous en avez parlé à vos enfants pour vous faire vos enfants, puisque compte tenu de votre âge, ils sont adultes. De même que vous, quand vous aviez 24 ans, vous avez été compétente à mettre en œuvre des choses pour protéger votre famille. Avez-vous fait appel à vos enfants pour vous aider avec leurs connaissances, leur énergie, leurs conseils, pour pouvoir justement essayer de trouver des solutions rapides?
Non, c'est-à-dire que si j'ai appelé ma fille, et je lui dis à ma fille, mais qui m'a dit qu'elle, parce qu'elle avait eu je peux pas compter sur eux, ils ont des problèmes qui font que je ne peux pas compter sur eux en ce moment. Ma fille a eu des soucis importants, divorce, et elle actuellement un burn-out après un licenciement. Elle a eu donc à faire un avocat, mais de droit du travail. Et là, c'est du droit de la consommation. Ça concerne un avocat de droit de la consommation.
Oui, j'entends bien.
Il y a un avocat de droit de la consommation qui peut m'aider, s'il vous plaît. Je suis sur le Val d'Oise, à Paris. C'est tout ce que je demande. Je cherche désespérément un avocat qui puisse m'aider, me conseiller. Je n'ai personne. Je n'ai personne à ce niveau-là.
Alors, Nadia, je crois que votre demande a été entendue. Elle est en tout temps entendue par nous. Donc, tout SMS qui viendrait dans ce sens-là, nous ne manquerons pas de vous les communiquer. Puisque là est votre souhait, c'est exclusivement sur ce sujet. Nous veillerons donc...
Catherine, je
l'ai bien entendu, Nadia.
Je vous prie de m'excuser.
Non, mais justement, vous l'avez dit, vous n'avez pas à vous excuser, pas plus que vous avez à en avoir honte, ni de le répéter après avoir dit que vous aviez honte. Voilà, c'est entendu. Et dans la mesure où nous avons, encore une fois, si j'en avais la compétence moi-même, je ne manquerais pas de vous le dire, ce n'est pas mon domaine de compétence. Par contre, mon domaine de compétence, c'est faire écho à votre voix pour que justement, ça soit relayé et que l'on puisse revenir vers vous et vous transmettre, puisque le standard a vos coordonnées, vous transmettre toute information que nous aurions à vous donner. D'accord ?
Je vous en serai infiniment reconnaissante. Je suis perdue de...
J'entends bien, et le fait que...
Je suis surtout vidée. Je suis vidée physiquement, psychologiquement. Je me sens... Je tiens à peine debout.
Bien sûr, Nadia. Non, mais je l'ai bien entendu. Et le problème, c'est que quand on est comme ça, on tourne en boucle et on n'entend plus nécessairement tout ce qui se dit autour. On continue de maladresse en maladresse plutôt que de se poser. Donc, dans un premier temps, je vous invite vraiment à vous poser. Vous avez passé déjà une annonce. Vous avez démultiplié la possibilité d'avoir des retours. Et nous serons attentifs à vous transmettre tout ce que nous aurions. Et en attendant, soyez vigilante quant à vous, parce que vous êtes potentiellement celle qui peut vous mettre en plus grand danger. Et le plus grand danger étant de vous mettre en position de victime encore et encore pour comme éponger votre honte, alors que vous n'avez pas lieu d'avoir honte. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé, et si ce n'est bien sûr d'avoir dit oui, mais vous avez le droit de dire oui et vous avez le droit de dire non et de revenir sur votre décision. Et donc jusque-là, eh bien, vous étiez tout à fait dans le juste fonctionnement. Et votre désir...
Vous savez, je veux dire une dernière phrase.
Je voudrais terminer ma phrase, parce que sinon je ne veux pas...
Pardon.
Et votre désir de réparer votre intérieur, enfin votre extérieur de votre maison, n'a pas lieu d'être ni un sujet de culpabilité ni de honte. Voilà, je vous écoute.
Ah, c'est gentil au moins, parce que j'avais honte d'avoir voulu essayer de mettre un petit peu de... Vous savez, j'avais 20 ans que je ne pars pas en vacances, Catherine, là, et je me disais pour une fois... Et en plus, j'embellis même pas la maison, c'est pour mes enfants, c'est pas pour moi.
Donc
c'était un plaisir qui m'était venu comme ça.
C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure et que vous n'écoutiez pas, Nadia. C'est ça qui est problématique, c'est que j'essayais de vous dire que justement... Vous êtes mis dans une situation où vous pensez votre désir coupable et comme il est coupable, vous vous punissez vous-même. Et donc faites attention parce que vous risquez de ne pas entendre ce qui vous est dit pour vous aider. Et Val, donc Valérie sans doute, dit de penser également, le cas échéant, au médiateur de la République. Voilà Nadia, je vous souhaite une bonne soirée.
Médiateur de la République, c'est dans la ville même où on habite ?
Alors ça, je ne sais pas. Donc certainement que sur Internet, vous devez pouvoir le trouver. Mais sinon, si Valérie nous donne plus d'informations, je ne manquerai pas également de vous le transmettre. D'accord ?
Je vous en remercie. merci infiniment.
Bon, mettez-vous en paix, on est un peu sur le coup, tous comme on peut, et on vous transmet tout ce que nous aurons.
S'il vous plaît, je vous en remercie infiniment, et je compte vraiment sur vous, parce que vous savez, je suis perdue, j'ai personne autour de moi sur qui compter. Quand je sais que je peux compter sur quelqu'un, je me débrouille. Mais quand on tourne comme ça pendant 4 semaines jusqu'à tomber par terre, c'est parce qu'il n'y a plus rien sur qui compter.
J'ai bien compris. J'en suis vraiment désolée.
Donc, merci infiniment.
Ne vous inquiétez pas. Sans doute, on va pouvoir vous adresser des petits messages.
Et puis j'aurais tellement voulu vous appeler. J'ai tellement d'autres histoires. J'aurais tellement voulu vous appeler pour des choses plus gaies, plus intéressantes.
Mais on fait avec ce qu'on a. C'est la vie. Vous savez, c'est la vie.
Et, en ce moment, c'est ça qui m'est tombé sur la tête.
Eh bien, nous sommes là
sinon,
aussi.
Sinon, j'apprécie hautement votre émission et tout ce qu'on peut entendre qui nous enrichit et nous apprend des choses avec vous.
Eh bien, écoutez, on est là pour tous les sujets, y compris celui-là.
Merci infiniment pour votre attention.
Vous en prie. Au revoir Nadia et courage.
Au revoir à tous. Merci infiniment.
Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1.
Bonsoir Sylvie.
Oui, bonjour. Bonsoir.
Bonsoir.
Bon, j'ai eu l'agréable surprise d'être appelée assez vite, mais voilà. Donc, j'étais en route dans la campagne, donc je me suis arrêtée.
Et ne bougez plus parce que si vous êtes dans la campagne, le téléphone risque d'être un peu en difficulté.
Effectivement.
Alors, racontez-moi, avez-t-il suivi?
Voilà, j'étais un peu touchée aussi par la détresse de la personne qui intervenait juste avant, donc ça m'a un peu troublée.
Je comprends.
Et j'avoue que je ne sais pas bien par où commencer. Alors, je vais essayer de mettre les choses en ordre. Voilà, donc il s'agit de mon fils qui est adulte, hein, qui a 40 ans, donc voilà. Et avec qui je suis dans une impasse totale, quoi. Je ne sais plus comment faire pour établir le dialogue, la vérité. Voilà.
C'est votre fils unique ?
C'est mon fils unique, oui.
Que vous avez eu toute jeune, dites-moi, puisque je vois que vous avez 58 ans.
Et oui, effectivement. Je l'ai eu tout jeune, voilà. Alors, d'où, justement, peut-être aussi cette incompréhension qui s'est installée au fur et à mesure des années. Je crois que c'est ce qui me reproche un peu aussi, indirectement.
Alors, quel est le point d'achoppement ? Où est-ce que les choses sont compliquées ?
Alors,
entre vous et lui ?
Voilà, jusqu'alors, on a... Bon, c'est forcément mon point de vue, hein, donc
je peux
qualifier notre relation... depuis plus jeune, de fusionnelle, en tout cas de très proche, très, très complice. Et puis, une vie un peu compliquée hein, de mon côté, effectivement. Et puis, mais toujours un dialogue constant, hein, même sur les problèmes, voilà.
Et alors,
toujours dialogué.
Et votre vie compliquée, vous parlez amoureusement ou sur d'autres sujets ?
Non, amoureusement, mon histoire familiale et puis aussi sa venue au monde puisque j'ai été séparée, j'ai eu un déni de grossesse, enfin beaucoup de choses cumulées qui a, je crois, inconsciemment installé de l'insécurité chez lui, quoi.
D'accord.
Quelque chose de, voilà. Mais j'ai envie de dire que grâce au dialogue, etc., et cette complicité, les choses se sont plutôt mieux passées, même, enfin, passées au mieux, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Et à l'âge de 17 ans, il a rencontré une personne avec qui il est marié maintenant.
Mmh.
Et il a j'ai deux petits-enfants, hein, de 11 et 12 ans. Et là, au fur et à mesure des années, il est devenu un étranger. Je ne sais pas comment dire autrement.
Mmh.
Je ne l'ai plus reconnu, ni dans ses valeurs, ni dans la façon de se comporter avec moi, ni, voilà. Enfin, je ne veux pas faire le schéma classique de la belle-mère, la belle-fille, enfin voilà. Bon, mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi un point là où je ne sais pas, à l'âge de 19 ans, il m'a annoncé que ma belle-fille ne m'aimait pas. Voilà. D'accord. Bon, les choses ont été dites. Voilà. On a toujours été intelligente et on a composé, mais effectivement, au fond, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais voilà. Bon. Et donc voilà. Il est devenu. Plus distant, plus... Il avait des élans très naturels et puis s'arrêtait. Voilà. On dirait qu'il était freiné par, à chaque fois, une dualité permanente. Le premier jour, si on passait un week-end ensemble, ça se passait très bien. Le lendemain, c'était complètement l'inverse. Mmh. Et puis, s'est installé carrément, enfin, une violence, un mépris, quelque chose de très désagréable. Là, pour le coup, des reproches, du jugement, enfin, en permanence.
Sur des choses du quotidien ou sur des choses passées ?
Sur des choses banales du quotidien. D'accord. Et pour en arriver à aujourd'hui, à ce qu'il m'écrive une lettre, on a passé un Noël terrible. Et donc, après ça, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Dis-moi. Alors, pendant le premier confinement, il m'appelait, il me confiait. Alors, il se fait suivre de son côté, mm-hmm. jusqu'à me dire que sa psy me trouvait formidable. Mm-hmm. Voilà, enfin, des choses très, très bizarres. Me dire le chantage au divorce de sa femme par rapport à notre relation, alors qu'on ne se voit pas. On est dans des villes complètement différentes, mm-hmm. des pays même différents. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas du tout d'invasion de ma part. Mais je suis omniprésente, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, que j'étais. Et donc, là, j'ai reçu une lettre et là, je suis complètement dévastée.
Est-ce qu'elle dit quoi, cette lettre ?
Avec un récit sur notre relation qui n'a jamais été... bonne. On n'a jamais communiqué ensemble, il s'est senti très seul. Alors, je respecte son ressenti, mais une lettre très confuse, et en disant que, tu sais maintenant, on n'a jamais été proche, je ne te comprends pas, on est dans deux mondes différents, quelque chose de complètement... D'ailleurs, je l'ai montré à un psychiatre cette lettre et jamais il ne cite de fait, quoi. Et si on lit cette lettre, on a l'impression qu'il s'est passé les plus grands drames dans sa vie. Comme s'il y avait des choses cachées, que j'étais vraiment un monstre. Voilà. Et donc, je suis... après, en me disant que... maintenant, ça y est, il avait compris, il n'allait plus me percevoir comme une personne dont il aurait envie que je sois. C'est très mal dit, mais pardon, c'est un peu ça. Et qu'il avait compris, quoi, qu'il voulait que je sois une personne autre que ce que je suis. Oui. Et donc, il faisait le deuil de ça. Et que... avec 1000 règles, on peut se voir une heure, pas plus. Tout est sous contrôle. Mmh. Il est très, très angoissé. Donc, tout est l'heure, les listes, ça devient quelque chose de complètement presque névrosé. Alors que je respecte scrupuleusement, vraiment, mais même en le respectant scrupuleusement, il arrive à angoisser pour quelque chose d'autre. Donc, je suis catastrophée. Je ne vois pas mes petits-enfants. Le dialogue est compliqué. Moi, je ne sais plus comment faire. J'ai décidé de couper les ponts et de le laisser un peu réfléchir, décanter, parce que j'ai toujours été à l'écoute, j'ai toujours répondu, je l'ai toujours... vraiment écouté, reconnu que peut-être, effectivement, je lui ai laissé une certaine sorte d'angoisse, peut-être, due à plein de choses. Mais voilà, je suis un peu perdue.
Alors,
bon, voilà, j'ai essayé de vous brosser un peu
le tableau de la situation, mais... bien sûr.
Voilà.
Alors,
ouais.
Si, est-ce que ça vous ennuie, Sylvie, de m'expliquer un petit peu le début de, justement, de votre vie à tous les deux, à savoir cette grossesse quand vous êtes une toute jeune femme, ce déni de grossesse, et vous avez dit avoir été séparée, est-ce que c'était de votre fait ou par quelqu'un d'autre qui avait estimé que vous n'étiez pas en capacité de vous occuper de votre bébé dans un premier temps, enfin, est-ce qu'on peut en parler quelques minutes?
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, bon, c'est une grossesse accidentelle et malheureusement, j'ai fait un déni de grossesse, donc a été...
C'est-à-dire, vous n'êtes pas rendu compte que vous étiez enceinte?
Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. Donc, je l'ai su à 3 mois de la naissance.
D'accord.
Donc, comme c'était une relation violée comme ça, j'ai recherché le père, mais qui était parti entre-temps à l'étranger. Donc, j'ai donc accouché seule. Voilà. Donc, entre-temps... c'est vrai que j'ai vécu une grossesse extrêmement angoissante. J'ai été reniée par ma famille. Je suis allée en foyer. Enfin, c'était très compliqué.
Parce que même la famille ne s'est pas rendue compte de votre grossesse?
Non, même la famille.
D'accord.
Voilà.
Et quand vous le découvrez à quelle occasion? C'est un rendez-vous banal chez le gynéco? C'est un symptôme particulier?
Pas du tout. Non, c'est très, très curieux, quoi. Je me suis évanouie, tout simplement... En visitant un centre équestre, il s'avère que la personne qui tenait ce centre équestre était, comme on dit, un rebouteux. Mm-hmm. Et quand je me suis réveillée, il m'a annoncé que j'étais enceinte, que ce serait un très beau garçon. Et que... Donc, imaginez le choc. Voilà, je n'étais pas du tout prête à entendre ça. Voilà. Donc, voilà.
Et donc, vous êtes à ce moment-là, votre famille, c'est à ce moment-là, elle découvre que vous êtes enceinte, et donc on vous rejette.
On me rejette, oui.
On vous met donc, dans un foyer. Vous allez à...
Alors, c'est moi qui cherche un logement, enfin quelque chose, et voilà, je vais dans un foyer, effectivement.
D'accord. À ce moment-là, vous mettez au monde votre bébé, et que se passe-t-il au moment de sa venue au monde? D'ailleurs, l'accouchement se passe-t-il bien?
Oui, oui, tout se passe bien. Donc, il y a effectivement le fait de pouvoir, à l'époque, hein, ça s'appelait la pouponnière, de pouvoir laisser son enfant. Et on avait 3 mois pour décider de ce qu'on faisait de notre enfant, si on souhaitait le garder ou pas, ou
d'accord,
le placer. Mais bon, pour moi, ça a été évident que je le gardais. Hein. Il n'y a pas eu de doute de ce côté-là.
Donc, vous avez pris tranquillement ces 3 mois, puisque votre grossesse, dans votre esprit, vous n'a duré que 3 mois. Donc, vous avez pris le temps de ces 3 autres mois pour dire que vous le gardiez, ou ça s'est fait plus rapidement?
Un peu plus rapidement, oui.
Et vous aviez la compétence, puisque vous étiez tout seul, sans famille et dans un foyer, la compétence?
Pas du tout. Je l'ai pris pour un défi, un challenge. J'ai dit que je m'en sortirais et j'ai tout fait pour m'en sortir. Et d'ailleurs, ça s'est bien passé après, puisque j'ai trouvé les moyens d'avoir un logement et de l'élever correctement. Et j'ai trouvé un travail. Enfin, tout s'est bien enchaîné. Simplement, un moment de grossesse très fortement angoissant.
Bien sûr, bien sûr. Et vous n'avez donc pas retrouvé le papa?
Alors non, mais on l'a retrouvé par la suite. Hein. Mon fils a rencontré son père... il y a quelques années, avant qu'il se marie, et malheureusement pour lui, deuxième fait un peu triste, et je pense qu'il m'en veut aussi, même si ça n'est pas de mon fait, ils se sont très bien retrouvés, entendus, mais la femme de celui-ci n'a pas souhaité qu'il maintienne la relation.
D'accord.
Donc ça a été un grand haut et un grand bas pour lui.
D'accord, très bien, ok. Et donc, vous allez donc vous occuper de ce bébé. Vos propres parents ne reviendront plus vers vous, ou est-ce qu'ils changeront un peu d'avis par la suite?
C'est très étrange. Hein. Ici, ils se comportent en grands-parents, comme si de rien n'était, comme si le fait de m'avoir rejeté n'avait pas eu lieu, quoi. Ils viennent me voir, je vais les voir, je maintiens le lien...
Et on n'a jamais plus renommé la situation de rupture qu'ils ont imposée.
Du tout, du tout.
D'accord. Donc vous allez vivre toute seule avec votre bébé, Et vous allez l'élever seule? Vous n'allez pas rencontrer d'autres hommes dans votre vie?
Si, j'ai rencontré une personne quand mon fils avait à peu près 3-4 ans, avec qui je suis restée jusqu'à l'âge de ses 8 ou 9 ans. Et après, ensuite, je me suis séparée. Voilà.
Et qui a entretenu une relation de qualité avec votre fils?
Alors oui et non, mais parce que bon, c'était un petit peu compliqué, il était un peu léger dans la vie et mon fils a souhaité rompre les relations quand il a eu 18 ans avec lui parce qu'il ne tenait pas ses paroles, enfin bon, c'était quelqu'un de pas très fiable finalement. Donc la figure du père, effectivement, on a pris un coup entre guillemets, enfin voilà, c'était pas une référence.
Bien sûr. Ensuite, il ne va plus y avoir d'accident particulier dans votre vie, tous les deux, dans votre relation l'un avec l'autre. Votre fils va s'épanouir tranquillement et normalement.
Normalement, il a fait de belles études, il a une très belle situation. Il y a eu la préadolescence ou l'adolescence où là, il m'a demandé un jour de partir avec lui, voilà, en voiture, enfin, comme on faisait quand on part en vacances, pour m'interroger sur ma vie, qu'il a enregistré. Enfin, le dialogue était toujours constamment, même s'il y avait des choses, voilà, qui n'allaient pas toujours d'accord, mais toujours, voilà, de façon frontale, transparente, enfin, sans.
Et vous interrogez sur votre vie, vous voulez savoir quoi en particulier? Quel était l'axe de sa curiosité?
Tout, il m'a fait parler sur ma vie en général, mais je lui ai redit aussi la relation avec son père géniteur qui était une belle histoire, hein. C'était pas du tout un drame, je l'ai rassuré là-dessus. Après, les circonstances de la vie ont fait qu'on a été séparés. Je lui ai redit tout ça. Je n'ai pas, par contre, nommé les choses en ce qui concernait mes parents.
D'accord.
Non, parce que je voulais qu'ils entretiennent de bonnes relations avec la famille, que ce soit la famille du côté où il est très proche du côté de l'ami avec lequel j'ai vécu. Il est toujours lié à cette famille. Voilà, on a vraiment recréé un cocon familial sécurisant pour lui des deux côtés, quoi. Et je n'ai pas nommé les choses dramatiques, quoi.
D'accord. Bien. Et donc, quand il rencontre son épouse, quel type de femme est-ce? Alors, tout ça, c'est bien sûr de votre point de vue, mais quel type de femme?
C'est délicat parce que... Alors, je n'ai vraiment rien contre les religions, hein, vraiment, mais bon, son papa est diacre. Et ce qui m'avait choquée, c'est que le jour du mariage, les discours, c'était « on a adopté Nicolas », enfin, pardon, mon fils, on l'a adopté. Et pour moi, il est... Voilà, et en fait, c'est une personne qui n'a pas eu de projet scolaire ni professionnel dans un premier temps. Son seul but, c'était de se marier avec mon fils et d'avoir des enfants. C'est vraiment depuis l'âge de 17 ans. Donc, quand il a fait son parcours professionnel de haute étude, bon, il est aussi journaliste, voilà, il est parti à l'étranger, elle l'a suivi partout à l'étranger, enfin, voilà. Donc, une femme très présente, quoi. Enfin, quelqu'un de très...
Qui n'a pas de vie, que de vie professionnelle, personnelle.
Voilà, pas d'objectif, pas de projet, à part le fait de construire un foyer avec mon fils et de le suivre et de construire, voilà. Donc, donc c'était un peu exclusif, quoi.
Et ils vont avoir leur premier enfant à quel moment par rapport à leur rencontre?
Un peu plus tard, je sais qu'elle voulait beaucoup, beaucoup d'enfants. Bon, elle est restée à deux, mais elle en voulait cinq ou six. Au départ, c'était vraiment le projet. Ma petite fille a 13 ans. Excusez-moi, j'essaie de calculer. Il a poursuivi ses études. Hein. Il est allé jusqu'au bout de ses études. C'est son premier emploi.
27 ans, quoi, grosso modo.
Voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. À peu près.
Bien. Alors, c'est évidemment que cette histoire est d'une grande tristesse parce que il y a un fils qui essaie de s'exprimer, qui essaie de mettre des distances, un holà, pour se faire entendre et respecter, mais dans la réalité, me semble être encore et toujours le jouet d'un contexte extérieur. Puisque si on considère qu'il a subi l'absence d'un père, il a subi ces quelques mois, 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas, de séparation avec sa maman quand il naît, puis il va aussi connaître une distance aussi avec les grands-parents, même si ils vont finir par revenir. La présence d'un entre guillemets beau-père et puis une redisparition du beau-père. Et puis ensuite, c'est une femme qui va être. Il y a aussi son père qu'il va retrouver puis qu'il va perdre à nouveau, dans le même contexte d'ailleurs que ce qu'il subit lui-même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire lui, il est sous l'autorité d'une certaine manière de sa femme qui lui fait le chantage de divorcer si d'aventure il entretenait une relation avec vous. Et lui-même a perdu, après avoir retrouvé son père, a perdu son père parce que l'épouse de son père lui a fait le même type de chantage.
Effectivement, voilà, donc, malédiction. Excusez-moi, je reviens juste. Je n'ai pas été séparée de mon enfant à la naissance, hein, du tout. Hein.
Ah d'accord, je croyais que c'était la pouponie.
Il y avait juste cette réflexion, je pense. Enfin, c'était plutôt psychologique en disant, voilà, est-ce que je le laisse ou pas. Mais il n'y a eu aucune séparation. Hein,
d'accord, pardon. Donc déjà, vous voyez, c'est intéressant parce que votre fils, pour se mettre dans une situation et accepter la situation après avoir eu une relation de qualité avec sa maman. Alors, toutes les relations avec nos mamans, même de qualité, sont toujours avec des accros, bien évidemment, parce que c'est compliqué, les relations, surtout quand on est tout seul avec sa mère. Il faut savoir que un enfant est dans un plaisir de fusion et dans une angoisse de cette fusion, puisque le rôle paternel est de séparer l'enfant de la mère pour que justement il n'y ait pas de confusion, de mélange des genres, ce qui permet à l'enfant de s'émanciper, de grandir, ce qui n'a pas existé là, puisque vous avez été tous les deux un soutien l'un pour l'autre, affectif, j'entends, dans cette relation plutôt de type fusionnel. Donc c'est sûr que déjà, dans un contexte comme ça, ce n'est pas rare que les enfants ruent un peu dans les brancards, ou tout d'un coup sont assez cruels, alors qu'on les a aimés profondément, mais tout simplement parce que pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir tendre vers sa vie d'homme, qui plus est vers sa sexualité, ils ont absolument besoin de ne pas être trop proches de leur mère pour ne pas risquer d'être amoureux d'elle, en quelque sorte, si je veux dire les choses un petit peu rapidement. Donc ça, c'est assez classique et ce n'est pas une punition de la mère, c'est une sauvegarde pour pouvoir développer son relationnel à lui-même et à son projet d'homme. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que quand même ce jeune homme, enfin cet homme maintenant, est quand même beaucoup en recherche, ce qui est très fréquent aussi, quant à ce papa, et qui du coup, à défaut d'être en relation avec lui, eh bien reproduit des choses. Donc sa femme, qui a le pouvoir d'interdire la relation avec sa mère, comme la femme de son père a interdit la relation avec son père. Et puis, il est à l'étranger, me dites-vous, comme ce papa qui était parti à l'étranger alors que vous étiez enceinte et que vous avez accouché toute seule. Donc, on voit qu'il y a une sorte de répétition, comme s'il était toujours dans la quête de ce père. Et ce qui est très douloureux, sans doute, et toujours douloureux quand je l'entends chez d'autres, c'est que les mamans qui sont très présentes sont celles qui prennent de plein fouet l'agressivité et la colère, alors que l'enfant continue à chercher l'absent, qui devrait être l'origine de la colère.
Tout à fait, oui. Je comprends ça.
Alors, si vous le permettez un instant, on fait une petite pause, Sylvie, et je reprends.
Oui.
La libre antenne d'Europe 1, Catherine Blanc, accompagne vos nuits.
Sylvie, vous êtes toujours là ?
Oui.
Alors, je voulais poursuivons donc ce qu'on était en train de se dire. Je voulais revenir notamment sur quant à votre fils qui est en fait depuis toujours dans cette recherche de son papa d'une certaine manière. Alors, il est dans le confort de sa relation avec sa maman, mais dans la recherche de son papa. Et évidemment, quand il va se marier et que son beau-père va dire « nous avons adopté », donc votre fils, j'imagine évidemment et la violence que cela vous fait, comme si cet enfant était à adopter, puisque ça a fait partie de votre réflexion de la toute jeune femme un peu prise de court, parce que sa grossesse, elle n'a pas eu le temps de se l'approprier pleinement. Et donc, comme s'il laissait penser que, que votre fils était à adopter ou que vous l'auriez souhaité, alors qu'il n'en est rien. Et puis lui, il a tellement besoin d'un papa, de toute évidence, hein, dans ce que vous me dites, qu'évidemment, cette façon de le faire rentrer dans la communauté qui plus est religieuse, donc avec cette espèce de grande famille proposée et d'adoption nommée, évidemment que c'est et une violence pour vous et certainement ça vient répondre à un besoin très fort pour lui à ce moment-là.
Oui, il me dit même que sa femme lui a sauvé la vie. C'est devenu des propos, enfin voilà, complètement démesurés, et voilà. Donc.
Oui, parce qu'en fait, ce que vous me dites de sa femme, c'est qu'elle est fondamentalement très dépendante de lui et que sa seule réalisation, finalement, c'est d'être, puisqu'elle avait l'intention d'avoir beaucoup d'enfants, sa réalisation, c'est d'être mère. Donc, c'est comme si sa réalisation, sa fonction était d'être mère au sens majeur du terme, y compris une bonne mère pour lui. Donc, vous devenez une mauvaise mère.
Tout à fait. Mais j'ai vraiment le sentiment, alors c'est vraiment avec tout le raisonnement que je peux avoir à l'âge que j'ai, mais de prendre ma place. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'il y a eu plein de circonstances. Par exemple, je ne pouvais pas évoquer des choses dans des conversations banales quand il était petit. Voilà, il faisait ceci ou il a marché à tel âge. Et le lendemain, mon fils me demandait « Maman, est-ce que tu peux éviter de parler de situations qu'elle n'a pas connues ?» Parce que ça la met mal à l'aise. Donc vous voyez les proportions que ça prend. Enfin,
et vraiment, absolument, il y a quelque chose d'assez fou dans cette façon de fonctionner, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas, c'est comme si vous étiez son ex en quelque sorte, et qu'elle ne veut pas entendre qu'il a pu avoir une ex. Or, vous n'êtes pas une ex, vous êtes sa mère.
Ben non,
et en fait, effectivement, elle joue le rôle de la bonne mère et elle met en évidence la mauvaise mère. Et comme évidemment, tout enfant a des récriminations très légitimes et puis à la fois très subjectives concernant leur maman, eh bien, dans cette situation, vous vous retrouvez étiquetée mauvaise mère et lui en besoin et en recherche de la sécurité d'une famille, en recherche d'un père ou donc par le biais de justement de ce mariage qui lui offre une famille, eh bien il est en crainte de créer un lien de fusion avec vous et donc avec tout ce que ça représente symboliquement d'idées oedipienne en quelque sorte, eh bien il va dans le sens et sous l'autorité et l'obéissance d'une mère qui sera une mère définitivement bonne, qui ne pense qu'à lui, qui n'est tournée que sur lui, qui est fusionnelle avec lui, qui le suit partout, qui se réalise au travers de lui, elle le sauve, il la sauve, comme s'il réparait l'idée de la fragilité de la relation que fut la sienne avec son père, évidemment. Et puis peut-être dans votre jeunesse de maman vis-à-vis de lui, parce qu'il a pu le vivre manquant de l'autre homme, il a pu avoir le sentiment que vous représentiez ce manque vous-même, en quelque sorte.
Ah, tout à fait. De toute façon, j'ai bien conscience que je lui ai inculqué une sorte d'insécurité, une fragilité, bien sûr, que j'ai eue par la force des choses. Hein.
Oui, par
même
votre
si
jeunesse.
Quelque part ailleurs, je suis forte parce que j'ai relevé des défis, voilà, mais cette fragilité-là, forcément, hein, je la reconnais complètement.
Mais vous savez, de toute façon, la compréhension que nous avons de notre histoire, les uns et les autres, est toujours une écriture sur l'écriture. C'est-à-dire, on réécrit l'histoire du point de vue de notre émotion, du point de vue de nos colères, de nos curiosités, de nos besoins. Et ce n'est pas le reflet absolu de la réalité, et c'est encore moins la compréhension que nous pouvons avoir de ce qui s'est joué pour notre maman. Donc, évidemment que c'est un peu en décalé avec votre réalité. Alors, je voudrais maintenant venir sur ce, parce que là, on a un peu posé les choses, mais qu'agir, donc vous proposiez de prendre du recul, de d'une certaine manière le quitter, alors que vous êtes de toute façon pas dans le même pays l'un et l'autre. Vous avez reçu ce courrier et votre proposition, c'est de le laisser pour ne pas être intrusive. Moi, il me semble qu'un courrier peut faire un courrier en retour, plein de respect, pas d'intrusion, mais aussi de proposer aussi votre lecture. Il ne suffit pas simplement qu'il assène une lecture de la situation, qui d'ailleurs est peut-être très téléguidée par une épouse, mais avec des mots tendres, sans être des mots amoureux, parce que évidemment, il n'est pas question de vous mettre à votre tour sur le même créneau que son épouse, mais pouvoir dire ce que vous comprenez ou ce qu'il vous semble être à l'ordre du jour dans ce qu'il est en train de dire, mais qui ne correspond pas complètement à la réalité de votre ou à votre ressenti, lui permettant, quand il le jugera bon, de venir ou de vous parler quand il le souhaitera, puisque vous l'aimez, il l'aimerait toujours, puisque vous êtes sa maman. Donc, en substance, c'est pouvoir lui dire, je crois que, fais attention, je crois que tu rejoues des choses, que je comprends que tu puisses les rejouer d'ailleurs, mais tu rejoues des choses, me semble-t-il, liées à l'absence que tu as pu ressentir très douloureuse d'un papa, que ce qu'on se disait aussi d'un papa qui n'a pas pu assumer sa paternité, même tardivement, parce que téléguidé par une épouse, et qu'il fasse attention de ne pas, de même qu'il a perdu un papa, de ne pas perdre son lien avec sa maman, même si vous comprenez que vous n'avez qu'un rôle de maman, et quand je dis qu'un, c'est pas au sens du dénigrement, hein, mais que vous avez un rôle de maman et que vous comprenez parfaitement qu'il ait besoin d'une relation avec une épouse, avec elle, qu'ils aient une famille, et que ça, ce sont des valeurs sur lesquelles vous n'avez pas à intervenir, mais que ce qui vous inquiète, et indépendamment de du manque qu'il pourrait représenter pour vous, c'est que ce qui vous inquiète, c'est qu'il risque de se priver de quelqu'un dont il a fondamentalement besoin en termes affectifs. Ça ne veut pas dire dans le vécu de tous les jours, mais savoir qu'on a une maman et que cette maman nous aime, tout simplement.
Et donc, alors dans sa lettre, pardon, je vous écoute attentivement. Alors dans sa lettre, il dit bien qu'il sait que je l'aime, donc et que en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que je dois me plier à ses règles. C'est une heure, il est très autoritaire dans la façon de conduire la relation, quoi. Et ça, moi, je n'en peux plus parce que j'ai été humiliée un bon nombre de fois dans plusieurs situations et que ça, je ne peux plus, quoi, parce que je n'ai pas dit stop à temps et je ne suis plus prête. Donc, c'est vrai que je lui avais fait 2-3 mots en disant, bon, je suis surprise, de cette lettre et un peu même choquée. Et je lui ai juste poser cette interrogation, comment continuer une relation entre nous, et je mets une mère impuissante, quoi. Enfin, j'ai signé, voilà, que j'étais impuissante, que je n'arrivais pas à faire face à ça.
Je crois que vous avez raison, une relation par définition, c'est la rencontre de deux libertés, certes qui n'empiètent pas sur la liberté de l'autre, mais de deux libertés. Sinon, vous êtes un objet et vous n'êtes pas un sujet. Donc c'est pouvoir dire tu as raison, je t'aime, mais aimer quelqu'un, c'est pas lui laisser faire n'importe quoi, et c'est pas le laisser réduire sa maman à un état d'objet. Que tu ne veuilles pas me parler, c'est ta liberté. Que tu puisses pas me parler à 11h, mais que tu puisses me parler à minuit, c'est ta liberté. Mais il y a en face la liberté de ta maman de peut-être t'appeler à 11h et tu ne répondras pas, et de ne pas pouvoir répondre à minuit, non pas par vengeance, simplement parce qu'elle aussi, elle a une vie, elle a un rythme qui est à respecter aussi fortement. Et dire, fais attention dans ces façons de fonctionner, tu me prives certes, mais tu te prives. Et vérifie que c'est toi qui... Non, il ne faut peut-être pas rentrer de ce côté-là, mais en tout cas, lui indiquer que dans cette façon extrêmement ordonnée, un peu obsessionnelle ou tyrannique, se joue quelque chose qui lui fait du mal avant tout, mais fait bien sûr du mal à la relation, mais lui fait du mal aussi. Et vous avez raison.
Oui, mais le but de mon appel, c'est aussi, je le sens malheureux, je ne le sens pas heureux, et ça me dévaste, parce qu'il serait pleinement heureux, je prendrais les choses beaucoup plus à distance. Mais je le sens, mais tellement mal, quoi, tellement névrosé. Enfin, je reconnais plus, quoi. Ça me fait mal de le savoir mal aussi. J'ai bien conscience qu'il est malheureux. Hein. Je ne dis pas, il est tyrannique parce qu'il est malheureux. Ça,
bien
c'est sûr,
sûr. Bien sûr.
C'est sûr.
C'est pouvoir lui dire, effectivement, vous avez raison. Je suis tellement, tellement, tellement triste de te sentir à ce point. Fragilisé et malheureux pour avoir une relation tendue, rigide, inquiète en permanence, accusatrice. Le fait est que tu dis une chose qui est très juste, c'est que je t'aime et sache que je suis là si tu veux bien de mon aide. Je crois qu'il vous faut prendre une position de maman, pas en rivalité avec son épouse, en disant votre inquiétude. Pas nécessairement que vous en êtes vous dévasté, parce que le but c'est pas que l'autre ait un pouvoir de vous faire du mal par le mal qu'il se fait lui-même, mais que ça vous inquiète considérablement, que vous êtes là pour l'aider, que vous êtes là peut-être pour échanger quand il le sentira et il le jugera bon, que vous espérez que ça sera pas dans 107 ans, parce que le temps file, le temps passe, et après on n'a plus que ses larmes pour pleurer pour tout ce qu'on a loupé en fait.
Mais quand je lui dis ça, le temps passe, ou vraiment trois mots, ça le met dans un état épouvantable. Je lui mets le temps passe dans des petits mots avant qu'on se faisait beaucoup plus, de façon plus fluide. Et ça le met dans un état, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais ils se sont agressés par ces, voilà. Donc j'avoue que les mots me manquent. J'entends bien ce que vous dites, hein. Si je dis, je suis désespérée, il va me dire, tu parles de toi.
C'est pour ça que je vous dis de ne pas dire que vous êtes désespérée. Je suis inquiète,
voilà,
je suis inquiète pour toi. Je suis inquiète pour toi. Moi, j'ai fait ma vie, je poursuis ma vie, mais il ne me semble pas que tu sois un homme heureux et cela m'inquiète beaucoup. Parce que si tu étais heureux, tu aurais plus de souplesse. Nous n'habitons pas la même ville, nous n'habitons pas le même pays, tu ne m'as pas sur le dos, il n'y a pas de conflit majeur. Si tu étais heureux, tu vivrais ta vie, le cas échéant, on se ferait un petit coucou, mais ça ne viendrait pas bousculer ton existence pour que tu aies besoin de prendre le temps d'une écriture qui ne fait pas suite à un événement majeur, si ce n'est ce fameux Noël, mais où tout d'un coup, c'est comme si c'était déjà trop d'avoir passé une soirée ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et cela m'inquiète pour toi. En fait, il ne faut pas, parce que, vous voyez, c'est dire « je suis inquiète », mais pas « moi, je suis inquiète et je vais mal », c'est « je suis inquiète pour toi
». Oui, ça, c'est peut-être l'erreur que j'ai faite quand j'ai répondu en disant « je suis choquée ». Il a dû le prendre mal, parce que je crois que c'était un effort d'écrire tout ça. Je ne sais pas ce que vous pensez de quand il me dit « je vais... » Ça y est, j'ai compris, je vais arrêter de te prendre pour quelqu'un que je... Enfin, je ne sais plus comment
idéalise.
Dire, mais une autre personne que ce que je pense, ce que j'aimerais que tu sois.
Vous pouvez lui répondre, tu sais, on idéalise toujours les autres à l'orée de nos blessures et de nos manquements. Et évidemment que les parents sont toujours décevants parce qu'ils ne sont pas cette idéalisation, mais c'est heureux. Parce que s'ils étaient idéaux, on n'arriverait jamais à la cheville de nos parents. Il faut qu'on les sente un peu idiots, comme disait Ferenczi, qu'on les trouve idiots pour avoir le droit de cheminer, de grandir et d'avoir des projets de les dépasser. Donc, je fais de mon mieux, j'ai peut-être pas bien fait, je ne suis peut-être pas idéale, je ne suis en tout cas pas ce que tu as idéalisé, mais tu peux aussi faire avec... les gens non idéaux, ce qui te permet de faire toi-même avec toi-même, parce que sinon vous comprenez bien que si on rejette les gens qui ne sont pas parfaits, on ne peut pas vivre avec soi parce qu'on ne sait que trop qu'on ne l'est pas soi-même. Voilà, Sylvie.
Mais moi, j'ai l'impression de l'avoir toujours encouragée, félicitée. J'ai toujours été positive et j'ai jamais été contre. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est trop tard. Je n'ai pas dit assez mon avis en quelque chose. Voilà, enfin, si à part toute la période éducative, bien sûr, où là, c'est bien, là, c'est mal, enfin, bien sûr. Mais après, j'ai toujours été, mais j'ai toujours encensé, enfin, voilà.
Bah, vous voyez, c'est ça aussi, c'est, vous l'avez encensé, donc vous aussi, vous lui avez donné une image de lui idéale, parce qu'il n'était pas idéal non plus, il y a des moments où ce n'était pas toujours parfait, ce n'était pas toujours très approprié, et vous ne l'avez pas dit pour le valoriser. Mais du coup, quand il se regarde dans la glace de la vie et des relations sociales, il n'est pas exactement ce que vous lui avez promis de lui-même. Vous savez, c'est un peu l'enfant qui tient une raquette de tennis et on dit qu'il sera un champion. Après, il se confronte au cours de tennis et il voit bien qu'il n'est pas un champion. Il en veut aux parents de lui avoir fait croire qu'il pouvait l'être.
Oui, et ben ça m'éclaire ce que vous me dites parce qu'il m'a dit « En fait, j'ai été gentil pour te faire plaisir ».
C'est ça.
Ou par exemple, il a fait des études très brillantes, enfin assez brillantes. Il me dit, j'ai jamais voulu faire d'études, en fait. Il détricote tout,
oui,
il démonte tout.
Il réécrit les choses, voilà. Bien sûr, mais voilà. Donc vous voyez, vous, il vous idéalise, vous l'idéalisez. Il dit qu'il fait des choses pour vous et pas pour lui. Et là, en ce moment, il est en train d'essayer de se défaire de cette relation qu'il trouve fusionnelle et qui ne colle pas à la réalité qu'il découvre de lui, de vous. Ça se fait avec beaucoup de violence, peut-être un peu téléguidé par ailleurs, avec un peu de manipulation, contre laquelle il ne se défend peut-être pas suffisamment. Mais le but n'est pas d'attaquer pour l'extérieur, c'est de l'aider à s'interroger sur ce qui... Voilà, ce qui...
Mm-hmm. Voilà, et avec les enfants, les petits-enfants, comment je dois faire? Parce que je fais quelques petits messages sur leur portable respectif. Bon, après, ce sont des jeunes hein, de 12-13 ans. Alors qu'ils me répondent un petit peu poliment, je trouve maintenant. Enfin, un peu...
Écoutez, je crois qu'il faut que vous restiez toujours sur votre ligne. Vous n'avez pas... Vous savez, les enfants, à cet âge-là, ils n'ont pas toujours les règles du jeu. De la bienveillance, de la bienséance, de l'expression des émotions. Ils sont pas très, si on est, ils savent prendre, peu donner souvent, mais ne vous en offusquez pas. Restez la grand-mère que vous avez envie d'être. Ne cherchez pas plus de liens avec eux pour essayer de compenser les liens que vous n'avez pas avec leur papa. Et puis laissez les enfants en faire l'usage qu'ils voudront. Et s'ils perdent la relation, c'est eux qui se privent d'une partie de la relation. Parce que normalement, évidemment, les enfants, il faut leur faire comprendre que c'est pas parce que c'est ma grand-mère qu'il faut que je l'aime, je suis pas obligée de l'aimer. Mais c'est un peu dommage de passer à côté d'une personne qui est un personnage important de ma famille et de ma construction, qu'on le veuille ou non. Et évidemment que s'en priver, c'est se priver d'une partie de son histoire personnelle. Donc vous n'avez pas à faire la morale, mais vous avez à rester dans la droite ligne. Vous ne punissez personne de leurs impossibilités. Vous restez une grand-mère qui souhaite des anniversaires, qui a vu quelque chose qui vous faisait penser à l'un ou à l'autre et qui du coup le dit, va faire un clin d'œil sur un sujet ou sur un autre, pas de façon plus appuyée ou exagérée maintenant, mais juste pour que personne ne vous empêche d'être qui vous êtes, une maman et une grand-mère, point. Après, ils sauront en faire eux-mêmes bon usage ou pas, et ça leur appartient. Alors bien sûr, ça vous en prive en partie, mais ça leur appartient parce que ça leur en prive avant tout. Voilà Sylvie.
D'accord. Merci beaucoup. Merci de votre avis sur cette histoire.
Je vous en prie. Je vous souhaite bon courage.
Un bel été.
Je vous souhaite bon courage parce que évidemment, c'est extrêmement douloureux et très ingrat.
Oui, effectivement. Oui. Merci beaucoup. Merci.
Au revoir Sylvie.
Au revoir. Bonne soirée.
Merci. Bonne soirée.
Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1.
Bonsoir Jean-Bernard.
Bonsoir Catherine, ça va bien ?
Je vais bien, je remercie. Je suis un peu désolée parce que je vois que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc je ne vais pas prendre trop de temps à vous parler. On va rentrer tout de suite dans l'histoire pour laquelle vous m'appelez, s'il vous plaît.
Alors, directement dans l'histoire. Excusez-moi, j'ai un peu la voix enrouée.
Je vous en prie, je vous en prie.
Oui. vie, mais c'était pour dire, bon ben, comme on n'a pas trop de temps, mais on peut se rappeler demain soir aussi.
Absolument, alors il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, là, dites-moi un petit peu de quoi il s'agit, puisque demain soir, ce sera Sana qui sera derrière le micro. Donc pour qu'on pour que vous puissiez planter un peu le décor, pour que justement...
On plante le décor carrément.
Voilà, si vous voulez bien.
Ça veut dire que j'étais marié pendant 21 ans, que ma femme m'a trompé avec son gendre.
Oui.
Son gendre, hein, carrément.
Oui, j'entends. C'est
le copain de ma fille. Hein, et que, ben ouais, là, je ne peux pas raconter l'histoire parce qu'on est un peu pris par le temps. Et qu'elle a dévié mon fils envers moi en lui disant que papa n'arrêtait pas de la battre. Alors que j'ai jamais tiré un fil de cheveux sur sa mère, tu vois. Et ça veut dire que mon fils s'est dévié envers moi pendant deux ans et demi. Mais le Noël dernier et les jours de l'an dernier, on s'est pris dans les bras, moi et mon fils. J'ai dit, j'ai jamais tapé ta mère, tu vois. Jamais. Et en 21 ans de mariage, je sais pas comment ça s'est passé. Et... j'ai les larmes aux yeux, excuse-moi, j'ai les émotions. Et parce que je suis d'origine de l'île de la Réunion, hein, je suis réunionnais. Hein.
Oui, j'entendais votre accent, j'allais vous le demander si vous
étiez... Ah, il y a un accent.
Oui.
Pas de Bordeaux.
J'adore.
Il y a un accent de réunionnais.
Oui, hein. Je vous assure.
Je connais, il y a un accent de Martinique et de Guadeloupe, mais...
Bah écoutez, moi je connais des réunionnais qui ont le même accent que vous.
Ah ouais. Ben nous connaît piment, m'y colle créole aussi moi, m'y connaît piment, comme baba, gingembre.
Alors là, vous me paumez complètement, mais j'adore.
Là, tu adores, là. Et le curry rayonné, tu adores aussi?
Aussi. Mais on est loin de votre histoire. Mais en
curry bichique, tu connais curry bichique?
Non, ça je ne connais pas. Mais si on déconfine la Réunion, je viendrai goûter tout cela.
Ah ben oui, on va... Ben non, il a reconfiné là.
Mais c'est pour ça, il va falloir attendre maintenant le redéconfinement. Là.
Mais malgré mes déboires que j'ai passés, tu sais, moi j'ai eu une enfance aussi très difficile, malheureux et heureux en même temps.
C'est-à-dire?
Et je veux dire que j'ai eu une mère qui était persévérante et travailleuse et tout, qui allait au boulot le matin, et j'étais propre pour aller à l'école et machin truc. On appelle ça à La Réunion la vie longtemps. Et tu sais qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui sont éveillés, hein, qui écoutent Europe 1.
Oui. Hein, eh bien, c'est pour ça que vous leur parlez, c'est pour ça que j'ai bien compris. Vous parlez un peu Réunionnais, vous rapprochez d'eux et c'est formidable. Donc,
ah
vous
ben
êtes...
oui, sûr. Rapprocher de mes compatriotes et de machin. Et je voulais extrapoler, parce qu'il y a deux ans, je suis passé avec une de tes...
Animatrices de la
Grande Animatrice, Sarah, hein,
mm-hmm.
C'est bien ça, Sarah, non?
Alors, je ne sais pas, ça dépend à quelle période, en tout cas...
Mais il y a deux ans,
C'est pas Sana Blanger?
Sana, oui. C'est Sana, oui.
Eh bien, justement, vous la retrouverez demain.
Ah ouais, ce sera Sana demain?
Ça sera Sana, vous pourrez lui refaire un petit coucou.
Oui, et je ferai un petit coucou, et puis, ben, essayez de passer, et puis, ben, de dire à vos collègues, ben, demain, j'aimerais passer.
Ben, vous
passerez. Pour parler de mon passé, il y a deux ans que j'ai dit à Sana, c'est Sana, c'est ça?
C'est ça.
Et que Sana, après mes 21 ans de mariage, et que ma femme est partie avec son gendre, et que moi j'ai pété les plombs, et puis je me suis rattrapé quand même.
Alors, péter les plombs, ça veut dire quoi? Ça veut dire tomber dans une dépression? Ça veut dire être agressif? Ça veut dire tomber dans l'alcool? Ça veut dire quoi?
Ah, ben aussi.
Mm-hmm.
L'alcool, mais pas la drogue. Hein. Pas la drogue.
Mm.
L'alcool, et puis... interné carrément en hôpital psychiatrique.
Mm-hmm. Parce que vous avez fait une forte
dépression. Tu vois qu'on a un peu le temps de parler.
Mais bien sûr, on a encore 6 minutes.
Ah ben 6 minutes, c'est bon.
Ouais, on va pas commencer à compter le compteur, sinon on n'aura plus le temps. Donc parlons.
Mais tu vois, ouais, ça veut dire que quand on pète un câble, ben, et qu'on pète un câble après 21 ans de mariage, oui. Et tu sais, quand tu passes à l'église et à la mairie, quand on te dit c'est pour le pire et le meilleur.
Oui.
Je ne sais pas si tu es passé dans ce moment-là.
On espère que c'est plutôt pour le meilleur.
Ben ouais, toujours.
Mais moi, c'était pour
l'éternité, moi.
Eh oui.
Et après, quand tu as une femme, excuse-moi le mot, mais qui est un peu folle, qui est un peu machin, et qui prend son gendre pour amant, hein, on va dire ça comme ça.
Mm-hmm. Oui, puisque c'est ça.
Là, tu auras des appels hein, sur Internet. Là. Mm-hmm. Il y aura des appels qui vont péter, là, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Et que tu te retrouves 3 mois et demi interné en hôpital psychiatrique à Bordeaux. Et tu peux te dire dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me jette dans la Garonne? Mm-hmm. Est-ce que, bon, je prends une corde, je me mets une ficelle et je me pends?
Ça aurait été une mauvaise idée.
Non. Mm-hmm. Et quant à la foi, quand tu crois en Dieu, et là je parle à ceux qui sont croyants et machin truc, tant qu'il y a vie, il y a l'espoir.
Et puis ça a permis aussi, ce qui est important, c'est ça a permis les retrouvailles avec votre fils, parce que sinon votre fils serait resté sur les seuls dires de votre femme. Donc,
oui. Mais j'ai pas que mon fils. Hein.
Non.
J'ai fait 3 enfants avec elle. J'ai 2 filles, hein. 2 magnifiques filles qui sont très belles, hein, mm-hmm. qui s'appellent Valérie, la première, la deuxième, Betty, mm-hmm. Bernadette, et mon fils qui s'appelle Josué.
D'accord. Bon, ils sont très contents. On les salue tous les trois.
Et les trois, ils sont très, 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 très contents de leur père qui ont rebondi. Voilà, on va dire ça comme ça.
Ça, c'est sûr. Vous savez, il n'y a rien de plus fantastique que de mesurer la capacité de se relever quand on a mis le genou à terre. Il y a quelque chose d'absolument merveilleux. Parce que
moi, j'ai pas mis un genou à terre, moi, madame. Excusez-moi de te dire, madame, mais je vais te dire, Catherine, hein, oui. Je vais te dire quelque chose. Jésus, il a tombé 3 fois mm-hmm. sur le chemin de croix.
Sur le chemin de croix, oui.
3 fois, il a tombé. Mais moi, j'ai tombé 5 fois, moi. Mm-hmm. Et je me suis toujours relevé.
Eh bien, c'est merveilleux.
Et je vais donner un conseil à tous les gens qui battent leur femme et qui assassinent leur femme et machin truc. Là, je vais parler en créole, là, par contre, parce qu'il y a des réunionnais qui m'entendent.
Alors, si c'est pour les réunionnais, allons-y. Mais rapidement, là, il nous reste de moins en moins de temps. Hein.
Oui. Lève-les, les gars. Arrête-toi, les femmes. Lève-les, les gars. La vie continue. Et en perdant une, retrouve-en 10. Voilà.
Bon. Voilà. Donc, Jean-Bernard, j'ai bien compris que vous avez évidemment déchanté sur cette histoire qui aurait dû être éternelle et qui s'est avérée être d'une grande cruauté.
Ah ben oui, après 21 ans de mariage, et puis ça fait 15 ans que je suis divorcé, ben maintenant je me porte bien. Et qu'on me dit dans le proverbe, vaut mieux être seul que mal accompagné, tu vois.
Exactement, puis ça permet justement de ne pas être encombré d'une relation qui ne va pas pour pouvoir établir des relations de qualité avec ses enfants.
Tout à fait, t'as bien raison, hein.
Voilà.
Excuse-moi d'avoir tutoyé, parce que tu sais, à l'île de Réunion, on se tutoie
voilà.
Au bout d'un quart d'heure. Hein.
Ben, c'est ça, et donc je trouve ça très flatteur. Donc merci beaucoup Jean-Bernard,
Et demain, ce sera Sarah, c'est ça?
Ça ne sera pas Sarah, il faut arrêter de la renommer comme ça, ça sera Sana Blanger.
Sana.
Exactement.
Il faut que je le marque. Et tu sais, à 60 ans, on commence à avoir des trous de mémoire.
Pas tant que ça, puisqu'on se souvient de son histoire, y compris malheureuse. Donc malheureusement, on n'a pas suffisamment de trous de mémoire. Donc mais il y en a un petit peu. En tout cas, demain, ce sera Sana qui pourra accueillir votre histoire, que vous puissiez l'équiper.
Mais plus longuement, parce que là j'étais abrégé, comme on dit là.
C'était un petit côté apéritif. Voilà. Donc vous,
apéritif.
Voilà. Demain, ça sera le plat de résistance. Je vous dis, Jean-Bernard, bonsoir.
Demain, nous boire un petit rhum arrangé, alors. C'est ça.
N'en buvez pas trop avant de parler à Sana. Je vous souhaite, Jean-Bernard, une très bonne soirée. Et puis,
toi aussi, je te souhaite une bonne soirée, Catherine.
Au revoir et très bonne nuit à vous.
Et t'as vu comment je dis ton prénom ? Catherine.
Oui, Catherine, exactement, comme on le dit dans le sud. À bientôt,
je suis
Jean-Bernard.
Dans le sud-ouest, à Bordeaux. Ben,
c'est pour ça. Au revoir, Jean-Bernard.
Au revoir, Catherine.
Bien, c'est sur cette bonne humeur que nous nous quittons. Toutes les bonnes choses ont une fin, puisque ce soir donc, vous l'avez compris, c'était ma dernière libre antenne pour cet été. Mais pour ouvrir la voie à d'autres bonnes choses, d'autres belles émissions pour vous et quelques vacances pour moi. J'ai été très heureuse de ces soirées passées à votre écoute et tiens à vous remercier de votre confiance. Vous retrouverez donc demain Sana Blanger pour le week-end, tout le mois d'août, et Sabine Marin en semaine jusqu'à la rentrée d'Olivier Delacroix. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne continuation et de l'ordre, suffisamment d'ordre nécessaire à vos vies pour un peu de calme et de confort malgré les tempêtes, ça et là.